1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, fidèles au poste et au podcast pour Culture Média. On a les chiffres et on n'est pas mécontents. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture. Vous retrouverez évidemment Bertrand Chameroy pour son écran de veille, puis Eva Rock pour le zapping du lendemain. Hélène Manarino et son portrait inattendu, ce sera en deuxième heure. Mais avant cela, dans quelques instants, le journal des médias et les audiences, très attendues puisqu'il y a également les audiences radio. Notre info média du jour s'intéresse à un groupe de PQR, autrement dit de presse écrite régionale, qui investit dans la télévision locale, en l'occurrence c'est la Dépêche qui reprend le réseau via Occitanie. Explications et perspectives avec Jean-Nicolas Bailey, directeur général de la Dépêche du Midi. Et puis nos invités, là c'est l'inverse, cette fois c'est une télévision qui modifie sa ligne. C8 se veut désormais la chaîne Famille Feel Good. Franck Apieto, directeur général de C8, lance dès cette semaine de nombreux programmes, dont M comme Maison, présenté par Stéphane Thébault. Oui, le transfuge de la Maison France 5. Ils seront dans ce studio. Enfin, Dominique Besnéard, l'agent des stars et créateur de la série 10%, inspirée de la vie de l'agence Armédia, une agence qu'il raconte dans un livre passionnant en compagnie de la journaliste Nejma Van Egmond. Elle sera aussi avec nous. Le pitch, des stars, de l'argent, un meurtre et encore des stars. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Et bonjour
Antoine Janton.
Salut Philippe,
bonjour à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Eh bien, un nouveau magazine très étonnant, un procès pour Valeurs Actuelles et puis une nouvelle plateforme bientôt sur la TNT, encore une.
Avant les audiences télé, un mot des audiences radio. Ce matin vient de sortir la vague de janvier-mars de Médiamétrie. Europe 1 gagne 28 000 auditeurs par rapport à la vague précédente. Elle est la seule généraliste à progresser dans un contexte toujours difficile pour tout le monde lié à la crise sanitaire et à la baisse des mobilités, c'est-à-dire à la baisse de l'écoute en voiture, très importante en radio. Quant à Culture Média, vous êtes 870 000 à nous écouter chaque jour et notre part d'audience a progressé d'un point en une vague. Et comme on dit chez nous, les 8 quarts d'heure sont au vert, les pros comprendront. Nous vous disons merci à toutes et à tous. On passe à la télé, le petit écran. Louise, qu'ont regardé les Français hier soir?
Eh bien, c'est Top Chef qui est arrivé premier et non pas TF1. M6 donc, avec l'épisode 10. 3 430 000 téléspectateurs, 16% de part d'audience, un bon score pour Top Chef. Ensuite, c'est la série de TF1, The Resident. Les deux épisodes inédits ont attiré 3 150 000 téléspectateurs, 13,2% de part d'audience, c'est en baisse. Puis c'est France 2 avec une rediffusion, un téléfilm Mon frère bien aimé avec Olivier Marchal notamment, 2 860 000 téléspectateurs, 11,9% de part d'audience. Forcément, c'est moins bien que la première diffusion qui avait attiré plus de 4 millions de personnes. Un mot d'autres chaînes, il y avait le retour de la carte au trésor, on vous en a parlé hier. Oui. C'est un bon retour, hein. 2 280 000 téléspectateurs, 10,3% de part d'audience devant France 3 qui est donc quatrième. Et puis un gros succès pour Arte avec le film Amanda, 1 880 000 téléspectateurs, 7,7% de part d'audience.
Culture Média.
Antoine Janton, à la une du journal des médias, un nouveau magazine qui arrive en kiosque aujourd'hui.
Oui, il s'appelle Big Bang et c'est un ovni dans la presse, un magazine qui imagine ce que pourrait être notre monde, notre société dans les mois qui viennent, entre mai 2021 et avril 2022, 12 mois donc. Et 12 magazines, 12 numéros réunis en un seul gros volume. C'est cela, Big Bang. Des utopies inspirées de faits réels. Un format imaginé par le publicitaire et communicant Gabriel Gauthier et réalisé par les équipes du groupe SoPress. Vous savez, c'est le groupe qui édite les magazines Society, SoFood, SoGood ou encore l'étiquette. L'idée d'un magazine sur le futur a beaucoup plu au fondateur de SoPress, Franck Hanez.
Gabriel Gauthier le dit très bien. Il dit on nous a un peu volé l'an 2000. Nous, on imaginait des voitures volantes, des trucs un peu dingues. Et finalement, on a des pandémies, quoi. Et donc du coup, tu as envie de retrouver un peu cet esprit de conquête du futur et de rêver un futur un peu plus dingue que juste se dire bah, au mois de mai, il n'y aura plus de pandémie, on ne sait même pas ce qui va se passer, quoi. Donc j'aimais bien l'idée de raconter des utopies souhaitables ou nécessaires avec des trucs assez fous comme trouver la religion idéale, chercher les drogues qui n'ont pas d'effet négatif, envisager de vivre sous l'eau ou de vivre en nomadisme total, etc.
Voilà, Big Bang, un magazine sur le futur donc et toutes les idées les plus folles, mais cela ne l'empêche pas d'être aussi un magazine d'information.
Ah, c'est un super magazine d'information, moi j'ai appris énormément de choses en le faisant. Il y a souvent une petite part de fiction dans l'intitulé, c'est-à-dire qu'on se projette dans un monde souhaitable, mais après on travaille des hypothèses qui sont des fois des choses déjà en cours de travaux, donc ça nous permet d'aller voir des scientifiques, des gens dans différents domaines. qui essaient d'explorer demain. Et on apprend plein de trucs très différents, dans plein de domaines très différents, c'est hyper riche. Le seul problème de ce magazine, c'est qu'il est très dense et qu'il y a beaucoup de choses. Donc du coup, il ne faut pas essayer de le lire d'un coup.
340 pages, hein, quand même. Je mets au défi quiconque de le lire d'un seul coup. Le premier et pour l'instant unique numéro de Big Bang est en kiosque donc à partir d'aujourd'hui dans les FNAC également. Et ça coûte 19,99€.
Une étape importante pour l'indépendance du groupe Le Monde.
Oui, pour son indépendance capitalistique, le groupe de presse a entériné la création d'un fonds de dotation hier. Une structure qui doit rendre incessibles les actions des actionnaires qui vont y participer. À commencer par Xavier Niel, qui s'était engagé à créer ce fonds de dotation en décembre dernier. Un fonds qui existe aussi pour Mediapart et pour Libération. Enfin, en tout cas, le modèle, hein, c'est des fonds bien évidemment différents.
Une nouvelle directrice pour le magazine Elle.
Elle s'appelle Véronique Filippona, de retour, 2 ans après avoir quitté l'hebdomadaire. Pour Grazia, elle sera chargée d'accélérer la mutation numérique de l'hebdomadaire féminin. Elle doit prendre ses nouvelles fonctions au début du mois prochain.
Et puis, toujours dans la presse écrite, Valeurs Actuelles renvoyées devant un tribunal.
Le tribunal correctionnel de Paris, ce sera le 23 juin prochain. Seront jugés le directeur de publication, Éric Monjaloux, celui de la rédaction, Geoffroy Lejeune, et l'auteur d'un article dont je vais parler dans quelques instants. Il s'agit d'une affaire d'insultes racistes. L'été dernier, l'hebdomadaire avait publié un récit, le voilà, cet article présenté comme de la politique fiction. Article dans lequel l'auteur imaginait la députée Danielle Obono en esclave. Il était notamment illustré avec un dessin où l'élue France Insoumise était représentée avec un collier en fer autour du cou. Un article qui a déjà coûté à Valeurs Actuelles un tiers de ses revenus publicitaires suite au départ de l'entreprise Taboula qui gérait les publicités du site internet du journal.
L'un des internautes qui avait insulté l'animatrice Cécile Djunga a été condamné.
6 mois de prison, dont 15 jours ferme, décision d'un tribunal de Bruxelles. L'homme condamné vit près de Mons, en Belgique. Il avait envoyé des messages racistes qui visaient la présentatrice belge d'origine congolaise, Cécile Djunga, qui travaille en France aussi. Hein. Elle présente plusieurs émissions, dont Tattoo Cover sur TMC et C'est toujours pas sorcier sur France 4. Elle s'est dite satisfaite de la décision, même si d'autres internautes qui l'ont insultée hein, également n'ont pas pu être identifiés et jugés. Facebook n'a pas collaboré avec la justice.
Et puis une semaine après Arte.tv, une autre plateforme va arriver sur la TNT.
C'est Salto, plateforme lancée sur Internet il y a 6 mois par TF1, France Télévisions et M6. Elle sera disponible dès la semaine prochaine sur 2 canaux de la TNT, les canaux 50 et 51. 50, c'est pour découvrir les programmes et 50, c'est pour découvrir les guides de programmes et 51 pour découvrir les programmes en tant que tels. Le CSA a donné son feu vert hier pour une durée de 6 mois.
Et puis Bertrand Delay reste à la tête de la chaîne parlementaire LCP.
Oui, c'était attendu. Hein, le journaliste était le seul candidat à sa succession. Il va diriger la chaîne de l'Assemblée nationale pour les 3 prochaines années, pour 3 autres années. LCP qui partage le canal 13 de la TNT avec Public Sénat, dont le nom du nouveau président, lui, sera dévoilé aujourd'hui. 3 candidats sont en lice. L'actuel patron de la chaîne, Emmanuel Kessler, l'ancien président de RTL, Christopher Baldelli, et le chef du service politique de CNews, Damien Fleurot.
Et puis une nouvelle série documentaire en préparation pour Amazon Prime Video.
Elle sera consacrée à l'un des meilleurs footballeurs français, Paul Pogba, champion du monde 2018, The Pogmentary. C'est,
c'est drôle.
Le titre de cette série, contraction de Pogba et Documentary, mot anglais, car la série évidemment est destinée à être diffusée dans le monde entier dès l'an prochain. Elle promet, attention, une immersion totale dans la vie du joueur.
Et puis, on l'aimait beaucoup, moi je l'aimais beaucoup, la mort d'une critique de cinéma qu'on a souvent entendue sur Europe 1.
Oui, Monique Pantel, elle est décédée hier à l'âge de 88 ans. Elle avait travaillé pour France Soir et pour On va se gêner hein, sur Europe 1 entre 1999 et 2014. Vous vous en souvenez peut-être, hein, elle y donnait son avis sur des films chaque vendredi avec un franc-parler rare dans la profession qu'on aimait beaucoup.
Ouais, on peut le dire, elle se gênait pas. Monique Pantel, je salue sa mémoire et toute l'équipe avec moi. Toutes ces infos, on peut les retrouver avec d'autres dans la newsletter Média d'Europe 1, c'est gratuit. Inscription sur europe1.fr. Merci Antoine Janton. À demain.
Avec plaisir,
pour
un
nouveau journal des médias. Merci Louise Bernard. À tout à l'heure pour votre indispensable.
Oui, je vais vous parler de l'initiative complètement folle d'un humoriste. Vous allez adorer.
Ah oui, ça va être génial.
J'ai hâte. Mais dans un instant, c'est l'info média du jour. Focus sur le retour à la télévision du groupe La Dépêche du Midi après 6 ans d'absence. Qu'est-ce qu'on pourra y voir? Réponse avec Jean-Nicolas Baillet. Il est le co-directeur général du groupe. À tout de suite.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture Média. 9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Le combat a été rude jusqu'au dernier moment, mais La Dépêche du Midi a fini par l'emporter lundi dernier face au groupe Altice BFM. La Dépêche va reprendre 3 chaînes locales, celle du réseau Via Occitanie, placée en redressement judiciaire fin janvier. 3 chaînes situées à Toulouse, Perpignan et Montpellier. C'est une décision du tribunal de commerce de Nîmes. Le groupe La Dépêche du Midi revient ainsi dans le monde de la télévision 6 ans après l'avoir quitté sur un échec, l'arrêt de Télé Toulouse. Que va-t-elle faire de ces chaînes? Que va-t-on y voir? Et avec quels moyens? Pour répondre à ces questions, notre invité Jean-Nicolas Baillet, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes en ligne avec nous, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes avec votre frère l'un des deux directeurs généraux du groupe La Dépêche du Midi, groupe qui possède une dizaine de titres dont l'Indépendant, le Midi Libre, le Midi Olympique, bien connu des amateurs de rugby, le Midol. Pourquoi avoir racheté ces chaînes? Pourquoi avoir racheté Via Occitanie?
Parce que c'est dans l'ordre de la cohérence des choses des médias locaux. Nous pensons que en local, il y a de vraies synergies à générer. Depuis l'arrivée des technologies de l'Internet dans les métiers de l'information, nous avons de plus en plus de cohérence à travailler ensemble. Donc nous produisons de la vidéo, nous produisons de l'audio, nous produisons de l'écrit. Et donc ça faisait sens pour nous de nous positionner sur les télés locales, surtout que la logique territoriale est claire et nos cartes de diffusion se superposent totalement au niveau de l'Occitanie.
On va revenir évidemment sur le fond, sur le contenu. D'abord, comment ces chaînes vont-elles s'appeler ?
Le projet est encore à construire. Pour le moment, on est dans la continuité. Donc, elles conserveront leur marque via Occitanie. Et puis, ce sont des questions auxquelles nous devrons répondre dans les prochaines semaines, mois.
Voilà, il y aura Midi, j'imagine.
Peut-être, c'est une des pistes qui peut être.
Quand on a la dépêche du Midi, Midi Libre ou Midi Olympique, on aurait tort de s'en priver, non ?
Oui, bien sûr. En même temps, on est sur une région qui s'appelle l'Occitanie, qui a cette marque qui est affichée depuis peu. Donc, c'est une question qu'il faudra se pencher parce qu'il y a un ADN qui a été construit et un lien de fidélité avec des téléspectateurs auxquels nous serons attentifs pour ne pas le rompre et perdre les téléspectateurs dans des changements qui seraient inutiles.
Alors, qu'allez-vous faire sur ces chaînes? Qu'est-ce que vous allez proposer aux téléspectateurs?
C'est encore un peu tôt pour le dire, puisque la décision du tribunal date de lundi, et c'est un projet que nous devons construire aussi avec les équipes de Via Occitanie. Ce qui est sûr, c'est que sur ces chaînes, on parlera des territoires, on parlera de l'Occitanie, on parlera de nos savoir-faire et des initiatives positives que nous avons en local.
Pardonnez-moi, je suis très étonné par votre réponse, puisque c'est une décision qui a été prise par le tribunal du commerce de Nîmes. Vous ne lui avez pas présenté de projet ? Seulement un projet économique ou est-ce que vous avez parlé du fond, du contenu ?
Non, bien sûr, il y a un projet de fond, de contenu, sauf qu'on est dans des opérations, quand on passe devant un tribunal de commerce, qui sont des opérations qui sont très rapides. C'est pour ça que je vous en donne les grandes esquisses. Ce que je peux vous dire en majeur, c'est que ce sera un projet essentiellement tourné info, puisque nous sommes des médias d'information. Mmh. Mais je ne peux pas vous en donner la précision dans une grille de programme détaillée, puisque tout ça, nous devrons l'écrire dans les prochaines semaines. C'est là où je veux en venir.
Non, j'ai bien compris. Vous allez reprendre 45 des 60 salariés, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Avec quels moyens, quels investissements ?
Avec les moyens du groupe. Nous sommes un groupe qui a une solidité financière, une gestion saine, qui a des résultats positifs. Et donc, nous allons investir avec les moyens du groupe.
L'échec de Télé Toulouse, dont vous étiez l'un des principaux actionnaires, ne vous a pas refroidi. Mais tant mieux, Télé Toulouse a fermé en juillet 2015 en raison de difficultés financières. Qu'est-ce qui a changé en 6 ans pour que vous relanciez, votre groupe dans la télévision ?
D'abord, une précision, nous n'en étions pas un des principaux actionnaires. Nous détenions à l'époque 25% du capital de Télé Toulouse.
C'est un des principaux actionnaires. Enfin, je ne vous
pas sur les mots. Comme ça,
enfin,
si vous pas voulez.
Vous n'étiez pas le principal.
Mais, pour le dire plus clairement, nous n'en étions pas les exploitants directs ou les opérateurs.
Nuance de taille, vous avez raison.
Voilà. Donc, de ce fait, effectivement, qu'est-ce qui a changé pour nous ? C'est que depuis des années, nous nous sommes mis à la vidéo et au multimédia, comme à peu près tous les médias en France. Donc, à cette époque-là, notre expertise vidéo était assez limitée, bien que l'on gère depuis une vingtaine d'années la correspondance du groupe TF1 sur notre région. Mais nous n'avions pas cette logique multimédia vidéo que nous avons maintenant. Pour vous donner une illustration très claire, on produit aujourd'hui avec nos rédactions pour nos sites internet près de 500 vidéos par mois. Ça, c'était à ce moment-là, on ne les produisait pas.
Et puis il y a également une avancée technologique, l'arrivée de la publicité ciblée. Vous y pensez ?
Bien sûr, c'est un des éléments à prendre en compte, bien sûr.
Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir gagner de l'argent avec ces chaînes ? Je veux dire le sens complet de ma question. Ou est-ce que c'est davantage pour vous un instrument d'influence pour votre groupe média, multimédia justement ?
Nous sommes des entrepreneurs, donc nous faisons les choses parce que nous y croyons d'un point de vue économique. Il est clair que le modèle économique des télévisions locales est compliqué et c'est justement pour ça que nous considérons qu'il fait sens en s'adossant à notre groupe.
Ouais. La télévision, c'est pas votre métier d'origine. Ça ne vous a pas réussi quand vous êtes essayé, même si vous l'avez dit, vous n'étiez pas le principal opérateur, le principal décisionnaire en tout cas. Quelle est votre stratégie aujourd'hui? Vous voulez redresser les comptes de ces chaînes pour ensuite les revendre à Altice, par exemple, candidat malheureux à la reprise de Via Occitanie, ou vous voulez les conserver, les garder?
Nous faisons les choses dans le long terme. Vous savez, nous sommes un groupe indépendant et familial qui a fêté ses 150 ans l'année dernière. Donc nous ne sommes pas dans des démarches de spéculation autour de l'achat et de la revente de médias. Nous avons repris ces chaînes et nous voulons nous inscrire dans le long terme et donc de redresser évidemment leurs comptes pour les inscrire dans la pérennité. Et c'est d'ailleurs pour ça que les salariés s'étaient positionnés en grande majorité pour notre plan de reprise.
Mmh. Rester seul, rester isolé dans le secteur très convoité de la télévision locale, c'est pas évident. C'est ce qu'ont compris d'autres groupes de presse quotidienne régionale, eux aussi propriétaires de chaînes de télévision. Je vais citer Sud-Ouest, Le Télégramme, La Voix du Nord et La Nouvelle République du Centre-Ouest. Ils se sont associés pour lancer Territoire TV. On en a déjà parlé ici dans cette émission. Est-ce que vous pourriez rejoindre Territoire TV?
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs qu'une question qui était sur la table. Ils nous ont d'ores et déjà fait des appels du pied en ce sens. Jusque-là, nous étions assez étrangers à ces logiques-là, donc il faut que nous creusions cette question avec plus de précision, mais ça fait partie des pistes que nous allons explorer dans les prochaines semaines.
Voilà, on parlait de 3 chaînes, peut-être 4, parce que Via Occitanie avait une chaîne également à Nîmes. La fréquence reste à attribuer. Le CSA a lancé un appel d'offres jusqu'au 4 mai. Est-ce que vous êtes candidat? Est-ce que vous avez déposé un dossier?
Je vous confirme que nous sommes candidats. Le dossier n'a pas encore été déposé, mais il va l'être dans les prochains jours. Pour nous, on est vraiment dans cette logique territoriale et la fréquence de Nîmes est totalement indissociable du reste du projet.
On va parler de votre vision d'ensemble. On va dire un mot de votre groupe de presse écrite avec quelque chose qui fait plaisir à dire ici à ce micro. C'est que vous gagnez des lecteurs. C'est assez rare pour être signalé. On continue à en parler avec vous, Jean-Nicolas Bailey. Vous êtes co-directeur général du groupe La Dépêche du Midi qui se déploie en Occitanie sur la télévision. A tout de suite.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Avec Jean-Nicolas Bailey, vous êtes co-directeur général du groupe La Dépêche du Midi. La Dépêche qui va reprendre 3 chaînes locales, celle du réseau Via Occitanie. Et ce rachat va permettre à votre groupe d'asseoir son influence et celle de vos titres, des titres de plus en plus lus, tous supports confondus. Un peu plus de 14 millions de lecteurs pour La Dépêche. Selon l'étude One Next publiée par l'ACPM, c'est l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, hier, une hausse de 69% en un an. C'est considérable. Et c'est encore mieux pour Midi Libre, plus 73%, et encore mieux pour l'indépendant, plus 179%. C'est plus que doublé. Comment expliquez-vous ces fortes progressions, ces très fortes progressions, dans un contexte pourtant très morose, celui de la presse écrite papier?
Il y a probablement plusieurs explications à cela. La première, c'est que je pense que les lecteurs se reconnaissent dans notre façon de faire l'information et dans les valeurs que nous défendons, à la fois dans l'humanisme, dans l'indépendance et dans la laïcité, qui sont des valeurs fortes aujourd'hui et qui peuvent paraître désuètes comme ça, mais que nous nous attachons à défendre au quotidien. Et puis ensuite, je crois aussi que dans ces périodes de crise que nous connaissons avec cette crise sanitaire, le lecteur est très attentif à des problématiques beaucoup plus simples, à ce qui se passe autour de chez lui, au retour au local, aux vraies choses. Et dans ce contexte-là, nous nous y retrouvons, il revient vers nous. Et donc nous gagnons des lecteurs. Et puis enfin, il y a un dernier élément, c'est grâce aux technologies du numérique qui sont de mieux en mieux maîtrisées par nos rédactions, nous dépassons largement nos frontières et nous gagnons des lecteurs, y compris à l'extérieur des frontières de l'Occitanie.
Vous avez un chiffre? Combien de non-Occitans lisent les titres de votre groupe?
J'ai pas de chiffres sur les non-Occitans qui lisent notre groupe. Ce que je peux vous dire, c'est que on fait 140 millions de visites par mois, ce qui est colossal. Si je rapporte au périmètre de l'Occitanie, c'est 5,8 millions d'habitants, donc c'est énorme.
On a bien compris. Dans une interview accordée à votre propre journal, La Dépêche du Midi, c'était le 2 octobre dernier, vous disiez que vos revenus publicitaires avaient baissé, que la période était peu propice à l'investissement publicitaire. Est-ce que la pub est revenue dans vos journaux?
Sur ce début d'année, ça va mieux, effectivement. La crise sanitaire a fait que nos annonceurs étaient beaucoup plus frileux. Pour vous donner un chiffre là aussi, nous avons perdu environ 10% de nos revenus publicitaires sur l'année 2020. L'année 2021, pour le moment, s'annonce sous de meilleurs auspices.
Et sur les sites internet, en
numérique? Sur les sites internet, les progressions continuent dans des croissances à 2 chiffres.
Qu'est-ce qui se vend le plus cher? Ou plutôt, qu'est-ce que vous vendez le plus cher aujourd'hui? Une publicité sur votre site internet ou dans le journal papier, dont la diffusion est toutefois quand même un peu en baisse, moins 3,5% l'an dernier, ce qui est quand même très très peu, étant donné le contexte que je disais tout à l'heure.
Tout à fait. C'est essentiellement les publicités sur le journal papier qui sont vendues les plus chères. On est sur un rapport de 1 à 10 pour une raison simple, c'est que l'inventaire publicitaire disponible sur le numérique est infini. Mmh. Même si dans les dernières années, on voit quand même un retour des annonceurs vers les marques médias, compte tenu de toutes les dérives que nous avons pu observer, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, ça revalorise nos inventaires publicitaires.
Le groupe La Dépêche du Midi est très puissant en Occitanie. Il possède donc 3 chaînes de télévision locale désormais, en plus de la dizaine de journaux et d'une dizaine de sites internet. Tout cela sans beaucoup de concurrents. Est-ce que ça pose un problème pour le pluralisme ?
Oh, c'est une question que certains posent. Moi, vous savez, quand on regarde ces chaînes d'Occitanie, il faut avoir conscience qu'il y avait d'abord une offre seulement, qui était celle du groupe La Dépêche du Midi pour la reprise, et puis au dernier moment l'offre du groupe Altice. Mmh. Dans tous les cas, c'est 2 médias forts. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si nous n'avions pas été repreneurs, ces fréquences aujourd'hui auraient disparu également. Donc, je crois que quand on est en période de crise et en difficulté comme celle des médias, malheureusement, où les rapprochements sont obligatoires. Donc, nous, ce n'est pas un rapprochement dans l'uniformisation de notre façon de faire de l'information. Il n'y a qu'à voir, en 2015, quand nous avons racheté le groupe Midi Libre, nous avons conservé l'ensemble des marques, nous avons conservé l'ensemble des rédactions et nous avons conservé, été très attentifs à ça, à conserver l'ADN de chaque titre. Donc je crois qu'on peut appartenir à un même groupe tout en maintenant le pluralisme de l'information et la diversité.
Ouais, la Dépêche du Midi est régulièrement critiquée depuis des années pour soutenir de manière plus ou moins voyante, disent vos détracteurs, un agenda politique, celui de votre papa, Jean-Michel Bailey, qui est le PDG du groupe et qui est devenu maire de Valence d'Agen l'an dernier. Dans une enquête qui a été publiée en décembre 2016, l'Obs vous qualifiait de Pravda Cassoulet. Pardon de vous le dire, vous l'avez lu évidemment, on pouvait lire « La devise de la Dépêche est le journal de la démocratie, une démocratie un peu spéciale », écrit l'Obs, dans laquelle on chante les louanges du propriétaire, en l'occurrence votre père, où les journalistes ont pour consigne de ne pas mentionner les noms des opposants les plus récalcitrants, sauf quand ils sont mis en examen. C'était en 2016, 5 ans plus tard. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ?
Moi, je trouve qu'on vit dans un pays qui est très adepte de la théorie du complot. On le voit maintenant sur les vaccins. Il y a toujours des bonnes raisons de considérer qu'au-dessus, il y a une main invisible qui dirige la pensée globale. Je vous invite à contacter les journalistes, nos journalistes, nos rédactions, et vous verrez qu'ils font leur travail en totale indépendance.
Est-ce que les noms des opposants et les récalcitrants sont désormais publiés dans le journal, par exemple ?
Il n'y a jamais eu de censure de ce type. Et encore une fois, je vous invite à... Vous savez, nous avons 500 journalistes dans le groupe. Donc ça ferait beaucoup de monde quand même à manipuler. Donc il n'y a jamais eu de censure de ce type dans nos titres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on gagne des lecteurs.
Caillou dans la chaussure, votre papa Jean-Michel Bailey est accusé de viol par Nathalie Collin. Je vais dire qui elle est. C'est la fille d'un ancien sénateur du Parti radical de gauche, parti que votre père a dirigé. Les faits présumés remonteraient à une quarantaine d'années. Ces accusations, votre père les nie farouchement. Il a pu le dire aux enquêteurs il y a quelques jours. Il l'a dit également dans les colonnes de la Dépêche du Midi. Au-delà de cette interview, est-ce qu'il est délicat pour les journaux du groupe de parler de ce sujet ?
Comment vous dire ? Délicat forcément, quand vous travaillez dans un groupe et que votre patron est traîné dans la boue dans des conditions assez ignoble, forcément c'est difficile. En même temps, nos journalistes sont professionnels et donc ils traitent de ces sujets-là et ces sujets ont été traités dans le groupe. Maintenant, ces difficultés-là et ces éléments ne changent rien sur notre ligne éditoriale. Mais j'imagine que pour les journalistes, évidemment, c'est compliqué parce que nous sommes une entreprise familiale. Il y a un vrai esprit familial et de corps au sein du groupe, mais il n'empêche que nous sommes un média et que nous relatons toutes les informations, même dans ce type de procès d'intention, parce que c'est bien de ça dont il s'agit quand même.
Vous l'avez dit, c'est un groupe familial, votre grand-père a été député, votre père également, tous les deux ont été maires également. Est-ce que vous voulez faire de la politique également, briguer des mandrages ? Je précise que vous avez 37 ans.
Non, c'est pas une de mes ambitions de vie. Moi, j'aime cette entreprise et il y a beaucoup à faire. Croyez-moi, en cette période dans les médias, vous êtes bien placé pour le savoir.
Merci beaucoup Jean-Nicolas Bailey. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe La Dépêche du Midi, groupe qui vient de mettre la main, parfaitement légalement évidemment, qui va reprendre 3 chaînes locales, celle du réseau Via Occitanie. Merci d'avoir été avec nous en direct. Dans un instant, on va s'intéresser à la nouvelle émission de C8. Elle s'appelle M comme maison, mais surtout, on va étendre le sujet car C8 change un peu de stratégie globale. On en parle avec Stéphane Thébault, c'est le présentateur de l'émission et le directeur de la chaîne, Franck Apieto. À tout de suite.
L'émission référence sur les médias, c'est Europe 1 Culture. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Le temps de mettre mon masque et de saluer Franck Apieto. Bonjour Franck Apieto.
Bonjour Monsieur Vandel.
C'est votre premier direct radio de toute votre existence.
Oui, écoutez, j'ai déjà fait de la radio, mais jusqu'à présent, jamais en direct.
Merci d'avoir choisi.
Pour vous.
Merci d'avoir choisi Culture Média. Vous êtes le directeur général de C8, la chaîne de la TNT qui fait sa mue à partir de ce week-end avec beaucoup d'émissions nouvelles. L'arrivée de Patrick Sébastien samedi soir, il sera notre invité demain, mais également un transfert remarqué. Il est dans ce studio. Bonjour Stéphane Thébault.
Bonjour Philippe.
On vous connaît comme le présentateur de la Maison France 5. Je ne vous demande pas si c'est votre première radio. Émission qui a été stoppée par le service public qui vient de trouver une terre d'accueil sur C8. L'émission s'appelle M comme maison. Sur France 5, c'était le vendredi soir. Et là, ça démarre demain, vendredi soir, à 21h. Quel est le concept? Quelle différence avec l'émission de France 5?
Alors, c'est une émission très généraliste sur l'habitat. J'ai envie de dire que celles et ceux qui aimaient la Maison France 5 ne seront pas forcément dépaysés. On a conservé l'ADN de l'émission. Il y a un visage nouveau qui vient nous rejoindre, celui de Tania Brunarosso, qui faisait partie de l'équipe du Grand Journal avec Michel Denisot il y a quelques années, que vous connaissez bien aussi. Et qui est une fille qui est passionnée par plein d'univers différents. C'est ça aussi qui nous intéressait. C'est qu'elle adore et la musique, et la cuisine, et le design, puisqu'elle a fait d'ailleurs une formation dans ce sens aux États-Unis il y a quelques temps. Et elle arrive pour s'occuper justement d'une rubrique qu'on appelle une journée avec. Et elle sera à chaque fois avec un créateur, un designer, un architecte pour nous faire découvrir des adresses de prédilection dans un secteur.
Mais ça, c'était un peu ce que vous faisiez vous-même, parce que le concept, c'est le même. Il y a une visite d'une ville. On voit des très belles maisons. Ensuite, on est avec des architectes qui résolvent un problème d'agencement. Et ensuite, des visites d'artisans et de tendances déco. Autrefois, c'était vous. Et désormais, c'est Tania, si j'ai bien compris.
C'est pour ça que je vous disais que les téléspectateurs ne seront pas forcément dépaysés. C'est simplement un visage de plus et un regard différent aussi qui est intéressant. Quand on a démarré cette émission il y a quelques années, on avait simplement un couple d'architectes. Mmh. Et au fur et à mesure, on a rajouté Stéphane Millet, puis Cécile Siméon. Parce qu'à chaque fois, avoir un regard différent sur une même thématique, ça peut apporter des choses complètement étonnantes.
Cécile Siméon, qu'on a bien connue ici bien à Canal+. On va entendre la bande annonce.
Je vous emmène cette semaine dans le Luberon, suivez-moi. Ah bah vous êtes déjà là. Mais dites-moi, on se connaît, me semble-t-il. Et vous vous en doutez, je vais vous parler de maison, d'architecture, de design, de décoration et même d'inspiration. Nous parlerons aménagement, agencement, je vous ferai rencontrer des artisans. Nous allons visiter des intérieurs très inspirants, rencontrer des passionnés partout en France et même ailleurs, dès que ce sera possible.
M comme maison, présenté par Stéphane Thébault.
Pas d'excuses, on se retrouve chez vous, c'est sur C8.
Ça démarre avec des plans du Luberon, des paysages sublimes. Comme vous dites, on n'est pas dépaysé. Maintenant, il y a du drone, ce qui n'existait pas au départ. Nouvelle séquence dans l'émission, vous avez dit, avec Tania Brunarosso. La séquence que présente Tania, c'est vous qui la faisiez auparavant. C'est une demande de la chaîne, Franck Apieto, de rajeunir, de féminiser l'émission sans faire injure à l'âge de Stéphane Thébault.
Alors, moi, j'étais un grand fan de l'émission. Il faut savoir que je regardais tous les vendredis. Je connais très bien l'équipe de production, Patrice Haroun et Jean-Marc Frantz, depuis des années. Et je leur envoyais régulièrement des SMS sur ce que j'aimais moi, et ainsi de suite.
Ah, d'accord. Vous faites de l'expertise pour les autres chaînes.
Ben, on se connaît, Patrice. Je l'ai fréquenté, voilà, il y a 25 ans de ça. Donc, on se connaît bien. Voilà. Et j'aimais vraiment cette émission. Moi, tous les vendredis soirs.
Vous n'avez pas répondu à ma question.
J'ai
est-ce
pas répondu.
Que
alors,
l'arrivée
oui,
de Tania, c'est
non,
votre idée ou est-ce que c'est Stéphane
une idée commune,
et Patrice Haroun qui ont dit on va rajeunir
moi,
et féminiser l'émission?
Je lis les choses un tout petit peu différemment. C'est-à-dire qu'il y a Stéphane qui est notre guide, le host qui nous amène dans les belles régions, nous fait visiter le patrimoine, parce qu'on met aussi l'accent sur tout le patrimoine architectural et historique des villages que Stéphane visite. Il nous fait visiter évidemment les maisons, vous connaissez la rubrique. Tania, pour moi, lui, il est dans le Luberon dans la première émission. Elle est à Marseille.
Sur Marseille.
Et elle a ce côté que l'époque amène aussi, qui est des jeunes gens qui envisagent cette corporation autrement. C'est-à-dire qu'elle va avoir des gens qui font du vintage, elle va avoir des gens qui font de la récupération, elle va avoir des gens qui font du nouveau design.
Oui, mais vous savez quoi ? Moi, je me permets de vous interrompre, parce que moi, j'étais déjà fan de l'émission. Il faisait déjà ça, Stéphane Thébault, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que c'est votre idée de faire venir une jeune personne dans l'émission ?
toute façon, je suis très soucieux de la parité sur mon antenne. Et ah, je voilà. peux vous dire que C8 est un très bon élève et je peux voilà, que m'en réjouir. Nous avons vraiment une envie de féminiser cette antenne aussi parce qu'il y a peu de jeunes femmes à la télé. Tania a fait des études de design et on avait envie de travailler avec Tania depuis un certain temps. Mais je pense que c'est vraiment une volonté commune.
Alors l'émission est très féminine. Ensuite, c'était déjà dans l'ADN de l'émission. On retrouve aux architectes d'intérieur qui étaient déjà sur la 5, Karine et Gaëlle. Elles sont chez un particulier pour des travaux dans son escalier. C'est exactement comme sur la Maison France 5, deux projets, visinage de croquis. Ce qui m'a étonné, c'est qu'elles sont non masquées, contrairement au reste de l'émission, et je me suis dit, tiens, ces séquences ont été tournées avant le Covid, donc peut-être, voilà ma question, ces séquences ont été tournées alors que vous étiez encore sous contrat avec la 5.
Non,
ou est-ce que je me trompe ?
Non, il s'avère que, et même quand vous le remarquerez dans l'émission, il s'avère que je me retrouve parfois avec le masque lorsque je suis notamment en visite dans les centres-villes, dans les villages ou ceci ou cela, parce qu'effectivement, on se doit de le faire. On est dans un secteur où le port du masque est obligatoire. Lorsque je suis chez les particuliers, j'ai parfois la liberté de pouvoir, en respectant les distanciations sociales, la possibilité de retirer le masque. C'est le cas également pour Karine et Gaëlle. Bon, elles travaillent tous les jours au quotidien ensemble. Elles n'ont pas forcément le masque dans la
bien sûr, je sais, j'ai vu l'émission.
Est-ce que je peux
j'ai vu l'émission. Sûr, mais il n'y a pas des séquences qui ont été tournées avant. Je dis ça parce que France 5 a stoppé subitement la diffusion de l'émission.
Oui,
d'où ma question.
En l'occurrence, les tournages de la rubrique, ça met à peu près 3 mois à se faire. Donc, comme l'émission a été arrêtée au mois de novembre, on avait déjà, bien sûr, commencé à travailler sur certaines séquences, mais ce n'était pas avant le mois de mars de l'année dernière. Vous voyez ce que je veux dire.
Franck Apieto, si je suis bien informé, vous avez également acheté les droits des anciennes émissions La Maison France 5, vous pourriez rediffuser des best-of, un peu ce que fait RMC Story avec Faites Entrer l'Accusé, c'est-à-dire qu'ils diffusent des émissions fraîches présentées par Dominique Rizet et Rachid Mbarki, puis ensuite d'anciennes émissions présentées par Christophe Ondelatte. Du neuf et du vintage, vous pourriez faire ça sur C8, c'est dans vos...
Je pense que c'est un patrimoine sur l'artisanat français, le design qui n'existe pas. C'est une émission unique, hein. C'est pour ça aussi que vous la regardiez et que je la regardais. Et oui, on peut faire des thématiques, enfin, on a plein de projets.
Vous avez pensé ?
On croise déjà les doigts pour demain soir et oui, bien sûr, on peut envisager ça.
Il est possible qu'il y ait de la rediff. Le chroniqueur du Point...
Ça sera le cas dès ce vendredi, hein, puisqu'il y a une émission fraîche en prime, et on a fait une sélection de séquences pour, vous le savez, les chaînes de la TNT pratiquent la verticalité, donc on a fait une sélection de séquences qui nous permet d'accompagner nos téléspectateurs avec de très jolis moments de l'émission historique.
Petit moment savoureux, le chroniqueur du Point, Bernard Quirini, avait pondu un billet très spirituel, très bien informé, vous l'avez lu, dans lequel il se réjouissait de l'arrêt de l'émission quand elle a été arrêtée par France Télévisions. Il l'a qualifiée d'excellente, il la déteste, je le cite, un zoo de bobos friqués qui se pavanent dans des appartements refaits à neuf, au milieu de meubles chinés en Inde et de bibelots rapportés de New York, en répétant le jargon de leur architecte d'intérieur. Sauf qu'il ne s'arrête pas là, parce qu'il demande à Delphine Ernot le retour de la Maison France 5. Il dit « La vérité, c'est que j'adore m'exciter sur les invités de l'émission, ces snobs vêtus de lin blanc qui nous parlent plomberie, esprit loft, puits de lumière et papier peint, en prenant des poses ridicules. Ils sont exaspérants, mais fulminer contre eux est un plaisir de gourmet. » Vous l'avez contacté, vous lui avez dit merci ?
Non, pas du tout, mais je voudrais, si vous m'accordez juste une minute, préciser quelque chose concernant cette émission, parce que souvent on a été taxé de montrer uniquement des belles maisons. Alors quand on me disait ça, moi j'avais la réaction qui était très simple, de dire bah, « vous avez raison, je vais vous montrer les maisons moches ». Je ne vois pas trop l'intérêt de montrer les maisons moches. Mais après, il faut aussi imaginer que ce qu'on montre dans l'émission, ce sont à chaque fois des parcours de vie, des histoires. Mmh. Une personne qui habite dans une maison de 250 m² dans les environs de Clermont-Ferrand, elle a pu payer sa maison le prix d'un 50 m² à Paris. Donc c'est simplement cette histoire qu'on essaie de mettre en avant avec des choix de vie qui sont un petit peu différents. Donc ce n'est pas qu'une émission de riches, ce n'est pas qu'une émission de bobos, c'est une émission avec des vrais partis pris en matière de décoration et des vraies histoires à raconter.
Voilà, j'espère que Bernard Quirini va regarder l'émission sur C8.
C'est une émission qui donne l'inspiration aussi, qui peut donner des envies, des idées. Ce n'est pas une question de pouvoir d'achat.
Voilà, on a envie d'habiter partout quand on voit votre émission. C'est pas la moindre de ses qualités. Vous restez avec nous à parler de cette émission avec vous, Stéphane Thébault, et avec vous également, Franck Apieto, des programmes et du virage éditorial de C8. En général, c'est à la rentrée, ou pas du tout, c'est dès le mois d'avril. À tout de suite.
Heures 11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Franck Appieto, c'est le directeur général de la chaîne C8 et Stéphane Thébault qui présentait la Maison France 5 sur la 5 donc, et qui passe maintenant à partir de demain vendredi sur C8 pour présenter M comme maison. France Télévisions, Stéphane Thébault avait stoppé la Maison France 5 quasiment du jour au lendemain en novembre dernier. Quelle avait été la raison invoquée pour vous justifier cet arrêt?
Si vous réussissez à obtenir la raison, je suis preneur. On ne la connaît pas.
On vous a
très
rien
honnêtement,
dit.
On ne la connaît pas parce que l'audience était plutôt au rendez-vous. On était sur, je crois, un chiffre à 780 000 téléspectateurs.
Oui, c'était la moyenne, 780 000.
On était effectivement avec, je dirais, un reçu du téléspectateur, une perception d'un magazine de qualité. On a eu plein de comités de soutien qui se sont mis en place sur les différents réseaux sociaux suite à l'arrêt de l'émission. Donc, on ne comprend pas la raison pour laquelle ils ont arrêté. Et surtout, en pleine période de Covid, c'est-à-dire en pleine période de pandémie, sur un secteur qui est peut-être un des secteurs les plus porteurs aujourd'hui, celui de la décoration, de l'aménagement de la maison et tout, ils ont l'émission qui était considérée un peu comme étant l'émission référence et ils l'arrêtent du jour au lendemain. Vous avez un peu du mal à comprendre. Ça ne s'est pas fait dans la plus grande élégance et la plus grande courtoisie. J'ai eu l'occasion de le dire dans la presse magazine, dans la presse écrite.
Qu'est-ce qui n'était pas élégant?
Le fait que la personne qui a pris cette décision n'a jamais pris le temps de décrocher son téléphone pour me parler alors que je suis resté quand même pratiquement 20 ans sur son service public et qu'il aurait pu avoir la décence à un moment donné de me passer un petit coup de téléphone en m'expliquant la raison pour laquelle lui souhaitait arrêter l'émission.
Vous dites il, donc c'est pas Delphine Ernotte, c'était qui?
Non, c'est Stéphane Sidbon Gomez qui a pris cette décision à un moment donné, qui est même allé sur certaines chaînes du service public dire qu'on était toujours en contact avec eux pour travailler sur un nouveau concept, ce qui est un mensonge absolu. Donc ce monsieur aujourd'hui, je considère qu'effectivement il manque beaucoup d'élégance. Il manque aussi beaucoup d'expérience parce qu'il fait des choix aujourd'hui en matière de programmation qui sont peut-être pas forcément les meilleurs. Mettre du spectacle vivant, les mots ont un sens. Le spectacle vivant, ça se vit dans une salle de spectacle, dans une salle de concert et pas forcément à la télévision. Et lorsque je vois les chiffres d'audience aujourd'hui réalisés par le service public le vendredi soir, je m'étonne qu'ils n'aient pas conservé la Maison France 5.
C'est aux alentours de combien ?
Ça dépend, c'est entre 150, 200, 300, 400 000 téléspectateurs, mais c'est un peu en dessous des chiffres qu'on réalisait.
780 000, donc ça démarre vendredi soir, M comme maison, sur C8 à 21h, Franck Appieto. Vous espérez faire aussi moins bien en termes d'audience? Vous visez quoi? Le million? Ne pas vider la salle? Quelle idée vous avez en tête? Quel chiffre?
Non, mais un transfert, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, j'aimerais vraiment que les gens soient très nombreux et prennent du plaisir à regarder cette émission. Alors, si vous voulez un pronostic, je serais heureux à partir de 600 000 téléspectateurs parce que ça serait un très beau démarrage. Et puis oui, par la suite, vous savez, moi je suis un résolument optimiste. Si on fait le million dans les semaines et les mois à venir, je serais très 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 heureux.
Alors Franck Appieto, M comme maison illustre le virage éditorial de C8. Ça commence dès ce mois-ci, vous n'avez pas attendu la rentrée de septembre. Comment vous définiriez la nouvelle C8 dans le JDD ce dimanche à Renaud Revel? Vous disiez vouloir une chaîne solidaire et utile et un positionnement familial et feel good, c'est-à-dire?
Alors, nous avons voulu, avec Gérald Brésiré, Jean-Marc Jurami, Vincent Pujol, repositionner la chaîne avec un constat, puisque vous avez lu le papier, qui était que finalement nous sommes un certain nombre à faire la même chose. Et avoir exactement
c'est-à-dire
le
vous,
même.
Vous, TMC, W9, font pas
W9, voilà, avec les chaînes de la TNT prioritaires et un édito où finalement, même sélection cinématographique, même type de production. Donc on a décidé de se différencier et de créer une ligne éditoriale qui nous implique. Je crois qu'il y a un avant-après-Covid. Et nous, on se prépare à l'après aussi. On a envie d'être impliqué dans le quotidien des gens, dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on a la chance et on est la seule chaîne à faire 5 heures de direct par jour. Donc on a des prises de parole quotidiennes possibles. Et on a décidé de s'impliquer le plus possible dans la société.
Alors ça a déjà démarré avec M comme maison. Il y a M comme maison qu'on annonce, mais ça a déjà démarré avec Ensemble on bricole, qui est présenté par Caroline Uturbide. Ça a démarré samedi dernier. C'est une hebdo pour aider les particuliers à faire un projet bricolage. C'est le confinement qui vous a donné l'idée.
On s'est tous retrouvés à la maison qui est devenue subitement notre lieu de travail, contraint et forcé. Et à force de regarder le plafond en même temps qu'on discutait, on s'est dit il y a un problème de peinture,
de volet aussi. Je vous dis ça parce que Ensemble en bricole, qui a été vu par l'ami Bertrand Chameroy à la première, il a beaucoup aimé. Il s'est demandé quand même si Caroline Uturbide n'en faisait pas trop lorsqu'elle repeignait justement ses volets.
C'est agréable à faire.
C'est cool, hein.
Oh là là. Ah ouais, ça détend carrément. C'est dommage que j'ai pas de volet chez moi, tu vois, parce que sinon j'aurais fait ça tout le week-end.
Non, là, il... Elle a aussi filé la moquette.
Je vais remercier Bertrand Chameroy qui regarde beaucoup C8 et qui nous fait la gentillesse de parler assez régulièrement de notre... Vous savez, c'est une chaîne feel good, Caroline et Turbide, quand vous la connaissez, elle est exactement comme ça.
On est d'accord. Plus sérieusement, je vais vite parce qu'il y a eu beaucoup de questions pour vous. La grosse annonce, c'est l'arrivée le samedi soir de Patrick Sébastien avec des émissions inédites ou des best-of.
Non, Patrick alors déjà je le remercie d'être présent sur notre antenne et merci à vous de le recevoir demain. Ça commence samedi soir, il a fait une sélection pour les téléspectateurs de C8 de ses meilleurs souvenirs, de ses meilleurs moments et ça démarre samedi et je suis très heureux de l'accueillir parce que Patrick a cette simplicité, cette fibre populaire, cette énergie qui correspond assez bien à l'ADN de la chaîne.
Alors vous annoncez plein d'autres émissions, je vais les dire vite, J'apporte le dessert consacré au voyage, Les fées de la nuit, Comment surmonter l'arrivée d'un bébé dans une famille, Premier envol, Le quotidien de six jeunes au moment où ils quittent le cocon familial, Tous solidaires, rien que le titre est en programme, Un jeune en emploi, La même chose, La nuit du bien commun. Et petite question, est-ce que Touche pas à mon poste fait partie et a sa place dans ce nouveau positionnement familial et feel good?
Oui, bien évidemment. Cyril est vraiment la figure emblématique de cette chaîne. J'ai dit dans le JDD qu'il était consubstantiel à la chaîne. Ouais. Et c'est totalement vrai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, TPMP est aussi un magazine qui commente l'actualité. La société occupe une grande part dans les médias.
Oui, mais ce n'est pas toujours feel good. Je ne suis pas en train de faire un reproche à l'émission. Mais on regarde, il y a eu Loana avec les amis de Loana qui s'écharpaient sur le plateau. Il y a eu des polémiques. L'avenue de Pierre Ménès pris dans une affaire de sexisme, il y a eu l'avenue de Pierre-Jean Chalençon pris dans l'affaire des dîners clandestins, Hanouna qui a annulé à la dernière minute l'avenue de Fabien Lecoeuvre qui avait insulté lui-même la chanteuse Oshi. Hier encore dans Touche pas à mon poste, on pouvait entendre cet échange entre Benjamin Castaldi et un avocat invité.
J'étais à l'école comme vous, j'ai connu des gens très brillants, des grands intellectuels, ils étaient chez moi à ma table à la campagne chez mes grands-parents. Donc les gens cultivés, intelligents, je les ai connus tout petit. Donc c'est bon, alors c'est moi.
C'est pas parce que vous servez à dîner des intellectuels qu'il faut que vous assimilez, monsieur. Excusez-moi, mais vous m'expliquez.
Vous êtes prétentieux, suffisant et insupportable.
Je ne suis pas là pour juger la pertinence du séquence télé. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pourriez basculer Cyril Hanouna la saison prochaine sur Canal+, en access, puisqu'on sait que l'info du vrai de Yves Calvi ne sera plus là la saison prochaine? C'est ce qu'a laissé entendre Gérald Brice-Viret, le patron des antennes et des programmes de Canal.
Alors, pour la rentrée de Canal, rien n'est fait, rien n'est décidé, tout est ouvert. Donc oui, ça fait partie des choses envisagées au sein du groupe. On en parle. Vous savez, Cyril est un génie de la télévision. Après, moi, j'ai encore besoin de Cyril. On parlait, par exemple, tout à l'heure de Un jeune, un emploi. C'est un événement en direct qui sera produit et amené et animé par Cyril. Cyril, c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup plus qu'on l'imagine dans la vie de tous les jours. Mais je vous réponds en même temps. Et on a beaucoup de projets avec Cyril à la rentrée pour C8. Après, moi de toute façon, puisque j'ai aussi cette casquette, je travaillerai avec Cyril avec plaisir sur Canal. Tout est ouvert, rien n'est tranché.
Voilà. Dernière petite question, Stéphane Thébault, est-ce qu'il y aura un avant et un après C8 pour vous?
Je sais pas du tout.
Parce que j'ai vu cette pub pour des toilettes. Vous dites, pour moi, il y a l'avant et l'après. Il est assis sur des toilettes qui vous envoient un petit jet à l'endroit où je pense.
Mais vous avez remarqué que l'avant est en un seul mot.
Comment? J'ai bien remarqué, ça ne m'a pas échappé. La maison, pardon, M comme maison, c'est demain soir à 21h15 sur C8. Merci d'avoir été avec nous, Franck Capietto, pour votre premier direct radio.
Oui.
Directeur général de C8.
Merci à vous, Philippe.
Stéphane Thébault, le présentateur de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Culture Média continue. Je vais le dire vite, il y a le rappel des titres à 10h. Il y aura Eva Rock pour le zapping du lendemain. Bertrand Chameroy, votre ami, qui est mal réveillé, on m'a dit. Et puis Dominique Besnéard, l'agent le plus connu de France. Il vient nous raconter l'histoire d'Art Média avec la journaliste Nedja Van Egmond. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder. Vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.